Radio Okapi.
Le programme économique entre la RDC et le FMI, évalué hier à Kinshasa avec les députés et nationaux, plusieurs avancées sont enregistrées, mais les défis demeurent. Des détails dans ce journal. En Ituri, le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre appelle le gouvernement et ses partenaires à renforcer les soins de santé primaire. Cela fait suite notamment à la baisse de la fréquentation des centres de santé en cette période d'épidémie. Et puis, l'intelligence artificielle transforme progressivement les métiers de chiffres, mais constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour les cabinets comptables en RDC? La question est au cœur dans l'atelier au deuxième congrès de l'Ordre national des experts comptables en RDC. Nous en parlons avec Bonnie Himaya, expert en stratégie et gouvernance de l'intelligence artificielle. Madame, Monsieur, bonjour. La situation sécuritaire et politique en République démocratique du Congo, ainsi que les initiatives en faveur du retour de la paix, ces sujets ont été au cœur de l'entretien hier jeudi à Brazzaville entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et le cardinal Fridolin Ambongo. Cette rencontre intervient quelques jours après les consultations menées à Bujumbura par le président burundais Evariste Ndayishimiye avec les responsables religieux et les acteurs politiques congolais. Le secrétaire général de la CENCO, Mgr Donatien Cholet, qu'une communication plus détaillée sur cette rencontre sera faite ultérieurement. Ici à Kinshasa, le programme économique conclu entre la RDC et le Fonds monétaire international a été au centre d'un échange hier jeudi à l'Assemblée nationale. Gouvernement, responsable du FMI et députés ont fait le point sur les réformes engagées, les résultats obtenus et les défis à relever. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a conduit cette rencontre. Aimé Boji Sangara l'a présenté comme un exercice de redevabilité destiné à renforcer le contrôle parlementaire sur la gestion des finances publiques. Il vise à permettre aux élus de mieux suivre la mise en œuvre de ce programme qui soutient des réformes économiques et les finances publiques du pays. Des détails avec Grassam Zati, notre permanent au Parlement.
En vigueur depuis janvier 2025, le programme conclu entre la RDC et le FMI mobilise près de 3 milliards de dollars pour accompagner les réformes économiques du pays. Selon le représentant résident du FMI, René Tapsoba, plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment une meilleure mobilisation des recettes publiques, la modernisation de la gestion des finances de l'État, ainsi que le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption. L'institution financière relève également une croissance économique projetée à 5,6% en 2026, une inflation maintenue en dessous des 3% des réserves internationales estimées à près de 8 milliards de dollars. De son côté, le ministre des Finances Doudou Fouamba attribue ses résultats aux réformes engagées par le gouvernement, parmi lesquelles la digitalisation de l'administration fiscale, l'interconnexion des régies financières et la généralisation de la facture normalisée. Il a toutefois plaidé pour une réforme du système fiscal afin d'améliorer le climat des affaires et d'accroître les recettes de l'État. Cette rencontre a aussi permis aux députés membres de la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires ECOFIN de mieux s'approprier les réformes en cours afin de renforcer leur mission de contrôle de l'action gouvernementale.
Et par ailleurs, la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Angola franchit une nouvelle étape dans le domaine financier. À Luanda, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamisu, et son homologue de la Banque nationale d'Angola, Manuel Antonio Thiago Diaz, sont signés mercredi un mémorandum d'entente destiné à renforcer la collaboration entre les deux institutions. Cet accord prévoit une meilleure coordination dans les domaines monétaires et bancaires. C'est dans le but de faciliter des échanges financiers, renforcer la stabilité des systèmes financiers et accompagner et l'intégration économique entre les deux pays. Ces nouvelles de la Chimbalou sont rendues par Magloire Landou.
Ce mémorandum d'entente établit un cadre de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques du système financier. Internationalement sur les systèmes de paiement, les politiques monétaires et d'échange, la supervision bancaire, la gestion des réserves internationales ainsi que le renforcement de la réglementation financière. Les deux banques centrales entendent également renforcer leur collaboration dans la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. L'accord prévoit par ailleurs la création d'un forum bilatéral permanent d'échange d'information. Cette plateforme permettra aux experts de deux institutions de partager leur expérience, de mieux anticiper les risques financiers transfrontaliers et d'améliorer la surveillance des établissements financiers opérant dans les deux juridictions. À travers cette coopération, Kinshasa et Luanda ambitionnent de renforcer leurs liens économiques et de créer un environnement financier plus favorable au développement des échanges commerciaux entre les deux pays.
Nous sommes en Ituri à présent. Nous parlons d'Ebola. La prise en charge des enfants touchés par cette épidémie reste un défi majeur. La capacité d'accueil des structures spécialisées, notamment la crèche, demeure insuffisante. Par ailleurs, la fréquentation des centres de santé a fortement baissé, notamment chez les femmes enceintes, par crainte de la contamination. Face à cette situation, le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a clôturé sa mission hier jeudi en Ituri, appelle le gouvernement et ses partenaires à renforcer les soins de santé primaire. Isaac Raymond.
À Bounia, une seule crèche spécialisée accueille les nourrissons et jeunes enfants atteints d'Ebola ou devenus orphelins à la suite de l'épidémie. Elle fonctionne au centre de traitement d'Issémé. Des enfants âgés de 3 et 9 mois y ont déjà été déclarés guéris. Pour le directeur régional de l'UNICEF, cette structure reste insuffisante au regard du nombre d'enfants affectés par l'épidémie. Il plaide pour le renforcement de la capacité d'accueil et de la prise en charge pédiatrique. Gilles Fagnino.
Les crèches, on en a besoin de beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'enfants qui n'ont pas la chance de profiter de ce type d'accueil.
Autre sujet d'inquiétude, la baisse des fréquentations des structures sanitaires. À Bounia, le nombre d'accouchements en milieu médical est passé d'environ 130 à 30 par mois, selon Gilles Fagnino. Cette situation s'accompagne d'une hausse de la mortalité maternelle qui nécessite, selon lui, une analyse approfondie afin d'apporter des réponses adaptées.
Il est important qu'on revoie bien ces statistiques et qu'on se pose des questions de continuité de service, de s'assurer que les services dont les enfants ont besoin, dont les femmes ont besoin, dont la communauté a besoin, aujourd'hui on ne peut pas laisser tomber, on risque de regresser.
Les responsables de l'UNICEF rappellent également que la riposte contre Ebola ne doit pas faire oublier d'autres priorités de santé publique où des progrès importants avaient été enregistrés avant cette épidémie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Lutte contre Ebola, toujours les leaders communautaires appelés à diffuser des messages positifs et responsables au sein de leur communauté. Cet appel a été lancé hier jeudi à Beni, au Nord Kivu. C'est à l'issue d'une sensibilisation qui a réuni les leaders communautaires, des responsables des confessions religieuses ainsi que des membres des groupes de pression et de mouvements citoyens. Il s'agit d'une initiative de l'organisation Hands for Help. Elle vise à renforcer le rôle de ces acteurs dans la sensibilisation de la population, mais aussi dans la lutte contre la désinformation et les rumeurs qui entourent cette maladie. Nicole Lufungi, chargée des programmes de Hands for Help, explique le sens de cette activité au micro de Marc Marofimbo.
Ça fait déjà plusieurs épidémies, on a tendance à normaliser Ebola, alors que c'est une maladie qui est très dangereuse, et surtout que c'est un virus qui change des souches. Alors c'est toujours important de communiquer avec la même intensité qu'à la première épidémie, par exemple. Moi, je dirais qu'à ce niveau, il y a encore beaucoup à faire. Donc nous devons mobiliser davantage autour de la communication, parce que l'acceptance communautaire, l'engagement communautaire, c'est la base de toute opération. Donc que chaque leader puisse faire passer des messages qui sont constructifs dans son cercle d'influence, notamment appeler la population à prendre conscience du danger qui existe par rapport à Ebola, mais également attirer l'attention de la population sur les mesures de prévention, qui sont des mesures simples comme le lavage des mains, la distanciation sociale, les recours précoces au retour des soins, les alertes. En tout cas, ce sont des mesures simples que les leaders doivent vulgariser.
Par la même occasion, l'organisation Hands for Help a procédé à la remise d'une dizaine de kits de lavage des mains aux représentants de la communauté. Il s'agit d'un appui destiné à renforcer les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola au sein de différents espaces publics et communautaires. Nous sommes pendant la saison sèche dans plusieurs coins du pays et le feu de brousse commence à causer des dégâts. Au Kasaï central, deux maisons réduites en cendres, c'est le bilan de celui qui a eu lieu hier au village de Mukolo, c'est dans le territoire de Demba. Les familles sinistrées ont tout perdu. D'après plusieurs témoins, le feu aurait été allumé par un inconnu avant de se propager aux habitations. André Katende Ngalamoulume.
Selon les habitants, le feu est parti d'une brousse voisine avant d'être poussé par le vent jusqu'aux habitations. En quelques minutes, les flammes ont englouti deux habitations. Les voisins se sont mobilisés. Avec des branches et des seaux d'eau, ils ont tenté de stopper le flamme. Mais le feu était très violent. Il ne reste que des murs noircis et des cendres. Aucune perte en vie humaine n'est signalée. Mais les deux familles sinistrées sont sans abri et passent désormais la nuit à la Belle Étoile. Elles lancent un appel à l'aide pour reconstruire leur maison. Face à cette situation, le coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, territoire de Demba, invite la population à ne pas s'adonner à la pratique feu de brousse. Marcel Massanka.
C'est un mouvement que nous n'avons pas salué, des fausses habitudes. Il faut vous préserver, de ne pas brûler la brousse et aussi tirer même nos enfants à l'oreille pendant la journée, de ne pas jouer avec les feux, parce que chaque fois qu'ils jouent avec les feux, soit à la maison, il y a risque même de perdre la maison et certains biens.
Les feux de brousse sont fréquents dans le village du Kasaï central, surtout pendant la saison sèche. Chaque année, ils provoquent d'importants dégâts matériels et menacent les populations. Kananga, André Katendengalamulume, Radio Okapi.
L'absence d'une juridiction supérieure à Walikale au Nord Kivu continue de pénaliser les justiciables. Le constat est dressé par les acteurs judiciaires après l'interruption inattendue d'une audience foraine organisée dans ce territoire par le tribunal de grande instance de Goma, siégeant actuellement à Beni. Ces acteurs plaident pour l'ouverture urgente d'un tribunal de grande instance autonome à Walikale. Précision avec Bernard Denyangui.
Lancé autour du 8 juin dernier, l'audience foraine organisée au chef-lieu de Walikale devait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais contre toute attente, elle a été interrompue le 29 juin, déplore Maître Patient Ubuni, l'un des avocats de la place. Sur plus de 50 dossiers inscrits au rôle, moins d'une dizaine avaient été examinés pour cet acteur de la justice. Cette situation démontre la nécessité de créer un tribunal de grande instance autonome dans le territoire afin d'éviter de tels désagréments à l'avenir.
Les mauvaises conditions de travail des juges et la non prise en charge de ces derniers seraient à la base de cette interruption brutale des audiences foraines, alors que plusieurs dossiers traités étaient en cours ici. Nous demandons que le Conseil supérieur de la magistrature pense à la création d'un tribunal de grande instance autonome, parce que à cause de la mauvaise route, mais aussi la distance qui sépare Walikale du chef-lieu de la province à Goma. Il y a des dossiers qui restent à Walikale pendant longtemps sans être traités.
Rappelons qu'au chef-lieu du territoire de Walikale, seul le tribunal de paix est actuellement fonctionnel. Les affaires civiles, commerciales et pénales, relevant de la compétence du tribunal de grande instance, s'accumulent ainsi depuis plusieurs années. Cette situation prive également les justiciables d'une juridiction d'appel de proximité et contribue davantage à l'allongement des délais de traitement des affaires.
La société civile de Mbanzangungu dans le Congo central lance un cri d'alarme sur les difficultés que rencontre le personnel des services de l'État dans leur travail au quotidien. Il s'agit notamment du manque de moyens financiers, des salaires impayés, des frais de fonctionnement insuffisants et de l'irrégularité dans le versement de la rétrocession. À titre illustratif, un chef de secteur a manqué la semaine dernière les moyens pour conserver un corps à la morgue en attendant une enquête pour autoriser l'enterrement d'une personne dont le corps a été retrouvé dans la brousse. Pourtant, la loi prévoit le financement de ces services par l'État congolais. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Réponse dans ce reportage d'Élise Kavira.
Sur le terrain, les conséquences de ces difficultés financières sont visibles. Pour gérer certaines urgences, le chef des secteurs doit parfois utiliser son propre argent ou compter sur les cotisations des volontaires. C'est ce qu'explique Victor Nduzimbembe, acteur de la société civile locale.
Il n'y a pas véritable décentralisation de moyens financiers. Les rétrocessions n'arrivent pas régulièrement dans les provinces. Et quand ça arrive dans les provinces, le gouverneur aussi, il en fait d'abord sa propriété. C'est là le problème.
Pourtant, selon Maître Soudi Alima Sikimputu, expert en décentralisation, la loi prévoit que l'entité secteur soit organisée et dotée des moyens pour remplir efficacement ses missions.
C'est une entité territoriale décentralisée qui a une autonomie administrative, une autonomie financière et qui peut bénéficier des ressources issues des recettes à caractère national. Si au niveau du secteur de la chefferie de la commune que l'on devait asseoir notre développement. Parce que c'est l'instance qui est censée gérer les besoins sociaux de base de la population.
La société civile appelle les autorités à assurer la régularité de la rétrocession et des frais de fonctionnement afin de permettre au secteur de remplir efficacement leur mission au service de la population. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Et en cette saison sèche, caractérisée par des bancs de sable au niveau du cours d'eau, la régie de voie fluviale RVF, à travers sa base hydrographique du Grand Bandundu au Kasaï, appelle les armateurs, conducteurs d'embarcations et l'ensemble des usagers de voies navigables à respecter scrupuleusement les règles de navigation. C'est afin de prévenir les accidents sur le cours d'eau de la région. Selon Desami Brinto, son sous-directeur chargé des questions d'hydro-balisage à la base hydroélectrique du Grand Bandundu au Kasaï, le respect des consignes de sécurité, le recours à l'expertise de la RVF avant tout déplacement sur les rivières demeure essentiel pour éviter les naufrages et autres incidents fluviaux. Il invite notamment les armateurs à s'informer régulièrement sur l'état des chenaux de navigation, des zones à risque ainsi que les dispositifs de balisage mis en place pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
Actualité internationale.
Une vague de chaleur en Espagne, un incendie de forêt près d'Almeria fait 11 morts. Environ 1000 habitants ont été évacués, plusieurs routes fermées, tandis que l'incendie se propageait rapidement, attisé par une végétation desséchée et des violentes rafales de vent. Des secours ont indiqué que plusieurs victimes avaient été retrouvées à l'intérieur de véhicules calcinés, laissant penser qu'elles ont été piégées alors qu'elles tentaient d'échapper aux flammes.
L'invité.
L'intelligence artificielle transforme progressivement les métiers de chiffres, mais constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour les cabinets comptables en République démocratique du Congo? Cette question a été au cœur d'un atelier organisé mercredi à l'ouverture du deuxième congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC. Bonnie Maya, expert en stratégie et gouvernance de l'intelligence artificielle, répond aux questions de Jocelyne Moussaopondé.
Bonnie Maya, bonjour.
Bonjour madame.
Mercredi, vous avez animé au deuxième congrès des experts comptables un atelier intitulé « Intelligence artificielle, data analytics et automatisation, transformation ou disparition des cabinets traditionnels ». Dites-nous, quelle est la principale conclusion qui se dégage de ces échanges ?
Aujourd'hui, comme dans toutes les entreprises, les cabinets d'expertise comptable utilisent l'intelligence artificielle, mais chacun l'utilise un peu de façon silotée, sans une vraie vision et une vraie gouvernance au sein du cabinet. Ce manque de vision et ce manque de gouvernance stratégique fait en sorte que cette utilisation n'est pas optimale. Et j'ai bien affirmé le fait que les entreprises ou les cabinets d'expertise comptable ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle, mais seront remplacés par les cabinets d'expertise comptable qui auront maîtrisé l'usage de l'intelligence artificielle. Ces cabinets mettent en place des outils de gouvernance, des outils de routine stratégique et des documents qui leur permettent aujourd'hui d'établir une politique d'usage de l'intelligence artificielle au sein de ces cabinets-là. Et c'est ce qui fait la vraie différence entre les cabinets qui les utilisent de façon silotée et les cabinets qui les utilisent de façon gouvernée et encadrée.
Et beaucoup craignent que l'intelligence artificielle remplace certains métiers. Selon les échanges de votre atelier, doit-elle être perçue comme une menace ou comme une opportunité pour les experts comptables ?
Alors, à mon sens, l'intelligence artificielle ne remplacera pas forcément les métiers, mais plutôt remplacera les tâches les plus répétitives. Dans les métiers des experts comptables, il y a des tâches des productions de documents comptables et documents d'audit qui, aujourd'hui, peuvent être exécutées à l'aide d'intelligence artificielle et de façon vraiment efficace. Mais par contre, ces documents qui sont générés requièrent quand même une expertise pour pouvoir être validés, pour pouvoir juger de la profondeur de l'analyse qui a été faite. Et donc, d'une certaine manière, il est toujours important d'avoir des compétences d'expertise comptable pour pouvoir être en mesure de juger les documents qui sortent d'une intelligence artificielle, que ce soit le document comptable ou pas.
Et la RDC est encore confrontée à des défis des numérisations. Les cabinets comptables congolais sont-ils prêts à intégrer l'intelligence artificielle ou il existe-t-il encore des obstacles majeurs à surmonter selon vous ?
Pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle au sein d'un cabinet ou d'une entreprise quelconque, il faut d'abord commencer par faire un test de maturité de l'IA. C'est un test, donc c'est une série de questions, 35 à 45 questions, sur qui analyse 7 piliers différents et qui, au final, donne un niveau de maturité, de préparation à l'intelligence artificielle pour un cabinet d'expertise comptable ou pour toute autre entreprise. Ce score-là, qui sera en pourcentage, permettra d'identifier quels sont les piliers qui posent des risques et quels sont les piliers qui sont déjà efficaces. Et de cette manière-là, un cabinet d'expertise comptable peut savoir sur quel pilier appuyer, qu'est-ce qu'il faut renforcer pour pouvoir être en mesure aujourd'hui d'adopter facilement et de façon la plus aisée l'usage de l'intelligence artificielle au sein du cabinet.
Revenons sur le thème du congrès Bonnie Maya, le professionnel comptable, acteur clé de la croissance économique et de la transparence financière. En quoi l'intelligence artificielle peut-elle aider les experts comptables à mieux accompagner les entreprises et à renforcer cette transparence ?
L'intelligence artificielle a un rôle d'augmentation. Donc, c'est-à-dire que une compétence, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, si vous avez un certain niveau de compétence et que vous utilisez une intelligence artificielle qui est à même de vous aider, cette intelligence artificielle multiplie vos compétences pour pouvoir vous donner un certain niveau, donc pour vous augmenter. Effectivement, les cabinets d'expertise comptable à ce jour peuvent facilement se voir augmenter par un usage approprié, encadré, gouverné de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient aussi travailler sur le fameux triangle QCD, donc qualité, coût, délai. L'intelligence artificielle permet d'avoir une qualité accrue en termes de profondeur d'analyse des missions d'expertise comptable. Elle permet également de réduire les coûts parce que on ne recourt plus à plusieurs outils à la fois, on ne recourt plus à plusieurs mains d'œuvre, mais elle permet également de réduire les délais de traitement. Aujourd'hui, un expert comptable peut faire une comptabilité d'entreprise en une heure, alors que auparavant, il lui fallait des semaines et des semaines d'analyse des données.
Bonnie Maya, merci.
Je vous en prie.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Lévin Bouinga et Jean-Désiré Kanyama, mis en nom par Dieudonné Yangassa. Pabel Pongo Massimango vous l'a présenté. Merci à vous qui nous avez suivis. Bon après-midi.